parce que cette chaleur va aggraver la sécheresse qui touche donc la France dès le mois de mai cette année. Une calamité de plus pour les agriculteurs qui doivent déjà affronter en vrac les conséquences de la guerre en Ukraine, la grippe aviaire, l'inquiétude pour la démographie agricole dans les années à venir. La moitié des agriculteurs français arrivent à l'âge de la retraite dans les 5 ans ou un peu plus. Alors quel constat, quelle piste pour limiter la casse? 01 45 24 7000 pour vos questions et pour dialoguer avec notre invité jusqu'à 13h45. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Présidente de la FNSEA, principal syndicat agricole. État de la sécheresse avec vous pour les agriculteurs, où est-ce qu'elle frappe le plus les agriculteurs en ce moment?
Nous avons 15 départements en restriction d'irrigation qui attestent du degré de gravité. Nous avons des poches par département parce que les orages sont localisés.
Oui.
Mais par contre, c'est en dentelle un petit peu partout en France. Il y a des régions très touchées, Sud, Occitanie, mais aussi Charente, Charente-Maritime, Maine-et-Loire, Indre, Charente, Indre, Indre-et-Loire. Et puis de l'autre côté aussi, du côté de l'Est, qui est une région qui est souvent touchée par la sécheresse. Donc ça affecte vraiment beaucoup de secteurs.
J'entends Maine-et-Loire, par exemple, c'est pas des départements qu'on a l'habitude d'entendre touchés par de la sécheresse, en tout cas dès le mois de mai par exemple.
C'est le mien, c'est mon département. Non, d'habitude la sécheresse arrive en juillet, vous avez raison de dire que c'est une sécheresse précoce et c'est en cela qu'elle est problématique. Elle affecte les récoltes à un moment où le mois de mai, nous le savons, c'est le moment de l'explosion de la nature. Les belles températures reviennent, la nature redémarre, que ce soit l'herbe, les champs, les légumes, etc. Et habituellement, il y a des réserves hydriques dans les sols, là il n'y en a pas, parce qu'on a un déficit de pluviométrie depuis novembre de 25% en France, 33% sur certains territoires de déficit d'alimentation des sols en eau. Donc aujourd'hui, la sécheresse, elle est incrustée parce qu'elle est profonde. Oui. Et quand il y a des orages, surtout quand ils sont violents, ils humidifient 5-10 cm, mais pas plus. Donc la crainte, c'est effectivement qu'on manque de réserves d'eau et qu'en plus, ces chaleurs, alors incroyable, hein, 32 degrés, c'est du jamais vu, ça fait un coup de chaud sur les cultures qui bloquent le développement.
Les plus touchés sont les céréales à ce stade de l'année?
À ce stade de l'année, les plus touchés, céréales d'hiver, c'est-à-dire le blé, les orges qui sont implantés depuis l'automne, les grains sont formés, les épis sont formés, mais le remplissage ne se fait pas. Tout est bloqué. J'ai fait un tour de plaine de mes blés ce week-end. Chez moi, ils servent à alimenter les porcs, donc il y aura moins de récolte pour les porcs. Quel sera l'impact? Pour l'instant, c'est moins 10, moins 20%. Ça peut basculer dans les 15 jours. On dit ça depuis 10 jours, mais malheureusement, la météo nous annonce encore des jours difficiles et très chauds. Donc l'inquiétude dans la plaine est très forte. Et pour l'herbe, il n'y avait pas jusque-là de difficulté parce que la pousse de l'herbe était normale autour du 5 mai. 70% de la première coupe d'herbe, c'est 70% de l'année. Oui. Donc les agriculteurs sont très regardants sur cette première coupe. Ils l'ont réalisée beaucoup plus tôt, 3 semaines d'avance pour la réalisation des travaux. Et maintenant, s'il pleut, tout redémarre. Malheureusement, là où les sols sont peu épais, il y a déjà des zones sèches.
Alors, solution contre la sécheresse. Bonjour Elisa. Vous êtes au standard, vous nous appelez de Bar-le-Duc, nous vous écoutons.
Quid des méga-bassines, ces bassins de rétention d'eau géants alimentés par des pompages profonds dans les nappes phréatiques qui ne sont pas rechargées? Est-ce la solution miracle?
Alors, Christiane Lambert, ça fait débat, notamment dans les Deux-Sèvres, pas très loin de chez vous, à la fois une solution pour retenir l'eau et en même temps, sur le long terme, des conséquences écologiques néfastes. Qu'en dites-vous?
Alors d'abord, les bassines, lorsqu'elles sont réalisées après des études hydrologiques et topographiques plus précises qu'il y a une dizaine d'années. Donc ce ne sont plus les mêmes réserves d'eau qu'il y a 10 ou 20 ans. Deuxième chose, la France ne capte que de 1,7% de l'eau de pluie, quand l'Espagne en capte 20%. Aujourd'hui, ce sont les Pays-Bas et le Danemark qui ont plus construit de réserves d'eau que la France. Dans certains pays, ils ont compris que le changement climatique nécessitait de stocker plus d'eau quand il y a des pluies diluviennes notamment. C'est ce que nous demandons, stocker les pluies diluviennes. À Angers, nous avons eu des inondations l'année dernière. 3 heures de pluie quand la Loire est vraiment déchaînée et très forte suffisent à tous les irrigants du Maine-et-Loire. Donc on peut stocker ces eaux diluviennes. Quand on pompe...
Au risque à plus long terme de manquer d'eau.
Alors, mais quand on la pompe sur les eaux diluviennes, cette eau, de toute façon, elle va à la mer. Parfois, elle fait même des gros dégâts, parce que ce sont des flux importants. Elle déborde, elle crée des dégâts. Pomper dans les nappes, c'est encadré. Donc, il n'y a pas les dégâts. Je sais que les militants, parce qu'ils militent, ont annoncé des chiffres et des scénarios assez dramatisants.
C'est vrai que ça fait débat, les bassines. Il y a des militants des deux côtés. Hein.
Bien sûr, il y a des militants des deux côtés. Mais vous savez, le climat change. On doit changer. Quand on va avoir moins 20, moins 30% de récolte, et que l'alimentation va augmenter de 15-20%, je pense qu'il y aura d'autres débats. certains pays aujourd'hui qui ont peur de connaître la famine, comme le Maroc, l'Égypte, etc., développent des programmes hydrogéologiques extrêmement importants, justement, pour justement trouver des solutions. On ne peut pas avoir d'agriculture sans eau.
Quand on dit on doit changer justement à propos de l'eau, est-ce qu'on peut continuer en France à travailler autant le maïs très gourmand en eau, par exemple dans des régions qui en manquent de plus en plus, par exemple les Charentes?
Alors, le maïs est une plante qui consomme moins d'eau que les autres, mais elle en a besoin l'été. Et donc, alors la solde de maïs déjà en France n'augmente pas, elle régresse. La majorité du maïs, il est cultivé pour l'élevage, majoritairement sur la façade atlantique dans le Grand Ouest, également dans les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, et ça fait des bovins, le bœuf de Bazas, le foie gras, etc. Là, c'est le canard qui le valorise. Les agriculteurs, aujourd'hui, dans leur choix de parcelles, sont plutôt sur des parcelles propres aux terres de maïs. Il y a indéniablement, depuis une dizaine d'années, des évolutions. J'ajoute que, grâce à la sélection variétale, on a aujourd'hui des maïs et des blés qui sont plus résistants à la sécheresse. Mmh. Avec la même eau, la même quantité d'eau, on produit 30% de plus. C'est-à-dire qu'on a optimisé de 30% grâce à la recherche. On met des sondes capacitives dans les sols. On est capable de mesurer le degré d'humidité dans les sols. On n'apporte que l'eau nécessaire, c'est-à-dire pas de façon générale et partout pareil. Donc c'est très précis et ça nous a permis d'optimiser. On est conscient de la rareté de la ressource. Alors il y a d'autres techniques. Par exemple, le non-labour. On ne laboure pas les terres. On ne réouvre pas les sols. On garde l'humidité dans les terres. Ça, c'est une technique qui se développe. Et pour tous ceux qui ne sont pas irrigants, c'est-à-dire 90% des agriculteurs, il y a seulement 6% des terres françaises qui sont irriguées. 6%. Et on en parle comme si c'était 50%. Bon. Donc moi je pense à tous les autres, les 94%, et il faut qu'on leur trouve des solutions aussi.
On retourne au standard. Marie est avec nous. Vous êtes agricultrice dans l'Orne, Marie. Bonjour.
Oui, bonjour. Je vous remercie. J'ai une question sur les méthaniseurs. Et voilà ma question, je voulais savoir si l'avis de madame sur la cohérence qu'il y a à développer ces méthaniseurs qui produisent du gaz à partir de denrées agricoles et alimentaires, comme le maïs ou le blé, alors qu'on nous annonce par ailleurs une grosse pénurie de denrées alimentaires et agricoles à cause du climat, mais aussi à cause de la situation et de la guerre en Russie et en Ukraine.
Christiane Lambert, les méthaniseurs, voilà un sujet qui monte dans le monde agricole.
Oui, et en France, nous n'avons que 2% de la surface des cultures qui va dans les méthaniseurs. Donc, c'est pas 15 ou 20%. Il y a dans la loi l'obligation de ne pas incorporer plus de 15%. Et actuellement, il y a des dispositifs de contrôle qui sont en train de se mettre en place. Mais il ne vous a pas échappé que dans les débats du moment, il y a un problème sur la sécurité alimentaire, également sur la sécurité énergétique. La France importe 23%, dépend pour 23% de son pétrole de la Russie, du gaz aussi, qui a été multiplié par 7, pour faire de avoir des méthaniseurs, c'est faire du gaz vert. L'Europe a voté récemment la nécessité de doubler la production de gaz, y compris des gaz renouvelables. Donc il faut mettre des curseurs, mais on ne peut pas dire on ferme la porte. Et la méthanisation, elle est faite aussi à partir de déchets verts des villes, de boue, elle est faite aussi à partir de déchets d'abattoirs, de graisses d'animaux. On valorise tous les produits biosourcés grâce aux méthaniseurs.
Et cela participe tout de même à des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture française, 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il n'y a pas une adaptation et un changement profond de modèle à mener? Christiane Lambert.
Alors, nous sommes le troisième secteur émetteur, après le logement et le transport, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est manger, c'est l'alimentation, donc c'est indispensable. Nous avons déjà travaillé depuis pas mal de temps, et par exemple en production laitière, en faisant le bilan carbone à la fois des vaches, des prairies, etc., on est capable de produire aujourd'hui un litre de lait avec 23% de gaz à effet de serre de moins qu'il y a 15 ans. Parce qu'on a optimisé la conduite du troupeau, l'alimentation. Donc on diminue nos émissions.
Ce sur quoi vous misez, au fond, c'est sur les progrès techniques, plus qu'un changement profond du modèle agricole qui passerait, par exemple, par une moindre production, moins de production de viande, pour vous, la productrice de porc.
Attendez, produire moins aujourd'hui. Produire moins, c'est produire de la faim. Tout le monde parle de la rareté. Là, on va perdre 50% du blé ukrainien. On voit aujourd'hui, avec la grippe aviaire, 16 millions de poulets abattus. On va manquer de poulets, les prix vont augmenter. Il y a même des questions par rapport au cahier des charges. Est-ce qu'on va pouvoir maintenir le haut niveau? Il y a des pays qui sont en famine annoncée, ouragan de famine annoncée par la FAO. L'heure n'est pas à produire moins. L'heure est à produire plus et mieux et plus durable. Et on sait le faire.
Même quand la plupart des analystes, Christiane Lambert, j'entends votre réponse, disent réduire l'empreinte carbone, ça passe par une réduction de la production animale.
Aujourd'hui, il y a déjà une réduction de la consommation de viande. Vous le savez certainement, depuis 10 ans, la consommation de viande a baissé de 12%.
En France.
Oui, mais en Europe aussi. Elle augmente énormément dans tous les pays.
En Chine,
entre autres, qui a absorbé toute la viande il y a 2 ans. C'est aussi ce qui a provoqué les hausses que l'on a connues. Donc, les pays qui ont des menus très végétalisés aspirent à manger de la viande. Et en Europe, chez les populations CSP++, hein, les catégories les supérieures, il y a une aspiration à une alimentation plus végétale. Alors, c'est vrai qu'il y a une diminution de la consommation de viande. Il y a aujourd'hui des alternatives. En manger moins, mais mieux. Quelle viande? Quand on mange de la viande française produite à partir de produits d'alimentation cultivés sur nos sols. Moi, j'élève des porcs, mais qui mangent le blé, le maïs, produits sur l'exploitation. Et qui sont même sur la litière de paille, produits sur l'exploitation. Donc, il faut bien différencier les viandes que l'on importe de milliers de kilomètres et que dans le bilan carbone épouvantable. Mais là, c'est aussi un appel aux consommateurs français. Hein. Vos achats sont vos emplois. L'agriculture a besoin de ce patriotisme.
Et de votre point de vue, pas de baisse de production animale, on a bien compris.
Non, monsieur, c'est pas ce que j'ai dit. Ne faites pas une conclusion que j'ai pas dit. Il y a aujourd'hui déjà une baisse de la production. Il y a moins 12% de consommation sur les 10 dernières années. Sur la dernière année, moins 3% de consommation de viande. Donc en France, nous avons déjà ce tassement.
Comment se passent les négociations commerciales avec la grande distribution ?
Mal. Je peux en rester là. Non, c'est difficile. Pourquoi ? C'est difficile parce que nos grands distributeurs en France sont au nombre de 6. Hein. Il y a 400 000 agriculteurs, 15 000 industries, 6 négociateurs. C'est très difficile.
Est-ce que vous êtes en contact direct avec eux ou est-ce que ça passe par des intermédiaires ?
Alors, en tant que présidente de la FNSEA, je suis en contact direct avec eux. En tant que productrice de porc, il y a d'abord ma coopérative qui transforme les porcs, puis qui les vend ensuite. Et donc, les industriels qui sont entre les producteurs et les distributeurs ont un rôle majeur à jouer et nous appellent parfois au secours en disant « SOS, on n'arrive pas à passer les hausses nécessaires ». Quand on a toutes les hausses sur les engrais, les charges, etc., il faut que ça aille jusqu'au bout. Et les distributeurs sont habitués. On a eu en France 8 années de baisse de prix. 8 années. Moins 1% par an. Pas étonnant qu'on perde des exploitations et qu'il y ait des faillites. Pas étonnant qu'on perde des producteurs de fruits et qu'on importe de plus en plus de fruits.
Et là, pourquoi ça se passe mal, là, les actuelles négociations ? Qu'est-ce qui se passe mal ?
Augmenter les prix, c'est contre leur culture. Ils ont construit tout leur business model et leur promotion et leur image sur « je suis le moins cher, venez chez moi ». Je ne donne pas de nom. Et aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour continuer à être les moins chers. Quitte à faire venir des poulets de Roumanie, moins chers, parce qu'ils viennent de Roumanie. Pas le même bien-être animal, pas les mêmes conditions d'élevage, pas le même coût du travail dans les
abattoirs. Donc il y a un vrai blocage dans les négociations en ce moment.
C'est très très difficile et beaucoup d'industriels sont extrêmement inquiets parce que la loi alimentation permet de protéger les agriculteurs. Il y a ce qu'on appelle la non-négociabilité de la matière première. Oui. Quand ça a été payé à l'agriculteur, ça n'est pas négociable. Le prix du lait, quand il a été payé à 400 euros tonne, il ne peut pas être renégocié. Mais par contre, le carton qui a augmenté de 40%, l'aluminium qui a augmenté de 65%. Les distributeurs, je dis, on ne veut pas le savoir, débrouillez-vous.
Leclerc, vous avez fait allusion à lui, dit on demande une augmentation de 8% sur 60% de mon chiffre d'affaires, ce n'est pas acceptable. On est dans cet ordre-là de demande de hausse de prix qui vous semble légitime ou pas d'ailleurs.
La demande est de cet ordre-là et elle est parfaitement justifiée quand on regarde de combien ont augmenté les engrais, l'énergie, le gaz. Tout ce que l'on utilise a augmenté énormément. Donc 8%, oui, c'est le niveau. Alors, M. Leclerc l'a reconnu, d'autres aussi. Même Jacques Cressa, le président de la Fédération du commerce et de la distribution, l'a dit hier sur une antenne. Il faut dire aux Français qu'on est en économie de guerre. On est en économie de guerre. Entre tous les événements que vous avez cités, sécheresse, crise en Ukraine, Covid en Chine qui redémarre dans la zone la plus industrielle, qui nous livre plus grand-chose, etc. Il faut se préparer à faire des efforts et acheter des produits français, des agriculteurs français, des industriels français. Mettre un pull l'année prochaine quand il y aura moins de gaz. Moins 1 degré, c'est moins 10% de gaz acheté à Poutine. Achetons tous des pulls et mangeons des produits français, des territoires français. C'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les emplois français et c'est beaucoup mieux pour la planète. C'est du vrai patriotisme.
Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'être venue dans les studios de France Inter. 13h44.